On va accueillir un chercheur de haut niveau. Écoutez, docteur Nabil Seda est un spécialiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal, l'IRCM, professeur à l'Université de Montréal aussi. Docteur Seda est un spécialiste d'une famille de 9 protéases ou encore convertases, qui sont des enzymes qui coupent les protéines à des sites bien particuliers, comme des ciseaux. Comme des ciseaux couperaient un ruban.
Bravo, Patrick, t'expliques bien
je,
ça.
Je lis un texte à la suggestion du professeur Seda, qui est au bout du fil, et laissez-moi terminer, messieurs, mon introduction. Chacun des 9 membres de la famille a ses cibles préférées, et plusieurs ont des rôles clés dans des pathologies. Si vous n'avez rien compris de ce que je viens de dire, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Retenez ce nom, la furine. C'est le 3e membre de la famille des convertases, et il pourrait être essentiel dans la propagation de la COVID-19. Docteur Seda, bonjour.
Bonjour.
J'ai bien résumé ça?
Tout à fait. Mieux que moi.
Ben, c'était à votre suggestion. Parfait. Écoutez, je ne veux pas, Docteur Seda, qu'on se perde dans des détails trop techniques, mais pour vous présenter, vous avez publié tout récemment là, un papier scientifique avec des collègues du Centre national de recherche scientifique en France, à Marseille, sur la propagation de la COVID-19. Expliquez-nous le rôle de la furine dans la propagation de la COVID-19. Ça va nous aider à comprendre le monstre auquel on fait face.
OK. Le virus dans lequel on parle, qu'on appelle le coronavirus, est comme une boule, si vous voulez. Elle est couverte de protéines de surface, on appelle ça. Ça s'appelle les protéines spike, ou on les appelle simplement les protéines S. Elles ressortent de la surface du virus, comme vous avez pu le remarquer dans les schémas du virus apparus à la TV, on le voit tout le temps. La protéine S est essentielle à l'entrée du virus dans les cellules du poumon. Et en effet, c'est contre cette protéine S que les vaccins sont dirigés. La furine, elle, est une protéase, c'est-à-dire ces ciseaux moléculaires. À la surface, elle se trouve à la surface de toutes nos cellules humaines. Et elle remplit plusieurs fonctions physiologiques importantes dans notre corps. Par contre, certains pathogènes, comme le virus dont on parle maintenant, le SARS-CoV-2 ou le COVID-19, l'exploiteraient afin d'infecter les cellules. Comment il fait ça? Dans ce contexte, elle pourrait jouer un rôle crucial, la furine, en coupant la protéine S à 1 ou 2 sites. Ces coupures sont requises pour modifier la forme de la protéine S et permettre au virus de fusionner avec les cellules du poumon. Une fois le virus entré, il peut alors se multiplier au départ et ensuite se infecter toutes les autres cellules voisines et se propager. Donc notre but à nous, c'est de bloquer, temporairement du moins, l'invasion des cellules du poumon en inhibant l'activité de la furine. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de furine active, pas de clivage de la protéine S, pas d'infection.
OK. Et à terme, quels sont les espoirs pour un remède, Dr. Seda?
Notre grand espoir est qu'un inhibiteur de la furine bloque l'entrée du virus. Or, nous avons déjà accès à des inhibiteurs, qu'on appelle, c'est comme des drogues qui bloquent l'activité, qui peuvent être inhalés, on peut les prendre par inhalation, ou pris sous forme de comprimés. Ils sont extrêmement puissants et ont bloqué l'entrée de plusieurs virus dans ces modèles, dans des modèles animaux. Par exemple, dans le cas du Zika, dans le cas de la dengue, etc. Maintenant, cet inhibiteur, qui s'avérera être le meilleur pour bloquer l'infection par le COVID-19, sera un remède antiviral potentiel.
OK. Si je comprends bien, Dr. Seda, vous faites des recherches sur ce type de virus-là, vous avez publié là-dessus, il n'y aura pas un remède contre le coronavirus, mais un peu comme les remèdes contre le VIH, ça va être un cocktail de plusieurs remèdes.
Sans doute. Sans doute, un cocktail antiviral devrait maîtriser au mieux la propagation du virus. Nous avons montré, par exemple, que l'ajout de la chloroquine, qui est employée contre la malaria, elle agit en synergie avec un inhibiteur de la furine contre certaines infections virales. Il reste à tester l'efficacité de ces composants sur le coronavirus du COVID-19, et des études préliminaires en France qui sont sorties il y a quelques jours semblent supporter le rôle protecteur de la chloroquine contre le COVID-19.
OK. Donc, ce que Donald Trump a dit par rapport au potentiel de la chloroquine, c'était pour une fois pas complètement fou.
Non, je crois qu'il n'est pas le premier à le dire. C'est un vieux médicament. Mais je crois que parfois il écoute les scientifiques. Mais la chloroquine elle-même, ce n'est pas la drogue miracle. Elle a besoin quand même d'un antiviral avec.
OK.
Docteur, dites-moi, la question, je pense que les gens se posent, là, c'est en termes de délai. On vous écoute, puis on sait, tout le monde réalise aujourd'hui là, que les scientifiques partout dans le monde travaillent, multiplient les heures dans les laboratoires pour en arriver à une solution. Dans le meilleur des cas, là, quand est-ce qu'on pourrait trouver enfin un médicament qui, à tout le moins, permettrait de lutter dans une première étape contre le coronavirus? C'est quoi l'espace-temps? Est-ce qu'on parle de 2 semaines ou 3 mois?
On parle plutôt de mois.
Ah oui?
OK. Ça ne sera pas fait dans 2 semaines. En effet, nous faisons tous du télétravail maintenant puisque nous sommes bloqués. Et moi-même, je ne peux pas me rendre au laboratoire car tout est arrêté. Mais donc, je conduis mes expériences en collaboration avec les Français et on a un minimum de labos qui conduit. Mais on s'attend que peut-être dans les prochains 2 à 3 mois, il y aura déjà une lueur d'espoir.
C'est vrai, ce docteur Seda, vous êtes un des chercheurs là, qui tentait de combattre ce virus, mais comme tout le monde, vous êtes confiné, votre activité professionnelle est limitée présentement. Là.
Tout à fait, tout à fait. Je suis totalement, quasiment à l'arrêt depuis hier. Et ça, c'est pour une durée indéterminée.
OK. Docteur Seda, à la fin février, un de vos collègues chercheurs, un collègue français que vous connaissez bien, Bruno Canard, qui est un spécialiste français des coronavirus, là, a dénoncé qu'après la crise du SRAS en 2003, parce que le SRAS, c'est un coronavirus, bien, les chercheurs en coronavirus ont eu de la difficulté à se faire financer. Est-ce que c'est vrai, ça?
Absolument. En France, comme au Canada, comme plusieurs autres pays aussi, la recherche est sous-financée depuis des années. Et nos budgets réels ne cessent de décroître. La menace du SRAS en 2002, 2003, 2004, s'étant éloigné en 2004, nos gouvernements ont décidé de couper les budgets attribués à cette recherche.
Et, OK, au Québec, au Canada, c'est la même chose?
Partout.
Même vous, là?
Ben oui, oui, c'est sûr.
OK. Donc, vous-même, vous êtes buté à des portes closes quand vous cherchiez du financement voilà. pour de la recherche, pas nécessairement pour un remède contre le coronavirus, mais pour comprendre toute la formation de ces maladies, c'est ça?
La direction de la recherche, parfois ou dernièrement, se fait plutôt à la recherche appliquée et la recherche fondamentale en a beaucoup souffert. Mais on ne peut pas aller chercher de vrais médicaments si on ne comprend pas le mécanisme de ces virus-là. Et moi, je fais partie de ces trop rares chercheurs à être subventionnés raisonnablement ces dernières années. Cependant, je n'ai pas pu obtenir des fonds au prix des instituts de recherche de santé du Canada, les IRSC, qui, eux, ont rapidement mis à la disposition des chercheurs 6 millions de dollars à la fin février. Mais ils n'ont subventionné que 10% des projets. Malheureusement, le nôtre ne l'a pas été. Notre projet s'appuyait sur une observation que j'ai faite dès le début juillet, hein, le début février. Le nouveau coronavirus se distingue par une nouvelle insertion génétique, codant pour 4 acides aminés. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça crée un site potentiel pour la fameuse furine, qui pourrait être essentiel pour sa grande infectivité et sa large propagation. Nous avons été les premiers avec nos collègues marseillais à publier cette observation le 10 février 2020. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre-temps? En attendant de pouvoir sécuriser d'autres subventions, j'avoue utiliser présentement les fonds destinés à d'autres questions scientifiques de mon labo pour avancer ce nouveau projet sur l'inhibition de la furine, comme approche antivirale chez les patients infectés par le coronavirus.
Et docteur, vous prenez ces fonds-là, évidemment, vous les mettez sur l'urgence du jour parce que, voilà. justement, c'est voilà. urgent.
Voilà, exactement. Et là, j'essaye d'aller chercher d'autres fonds pour pouvoir combler cette lacune.
Docteur Seda, je vous souhaite une bonne quarantaine et surtout, je vous dis merci pour votre travail.
C'est moi qui vous remercie.
Merci. Merci. Bye. Docteur Nabil Seda, qui est un chercheur québécois de haut niveau de l'Université de Montréal, qui nous a raconté un peu les dessous de la recherche. Je suis désolé, là, il y avait des termes un peu techniques, mais Dr Seda est un très bon pédagogue, Philippe, et je pense qu'on a bien compris.
Oui, tout à fait, mais tu sais, c'est vraiment consternant quand on entend les coupes subventions à la recherche, comment aujourd'hui on regrette sûrement partout d'avoir fait ces choix-là, puis de ne pas avoir écouté les appels. Si tu permets, Patrick, je vais te faire écouter un très court extrait. Et c'est CBS News qui a remis ça hier. On va l'écouter au retour. Mais c'est un court extrait de Bill Gates qui explique à quel point il fallait faire attention à ça. C'était il y a 3 ans.
Philippe, on me dit qu'on a l'extrait de Bill Gates.
Écoutons-le, ça dure 10 secondes. Écoutez ce qu'il disait à CBS News il y a 3 ans.
The impact of a huge epidemic, like a flu epidemic, would be phenomenal because all the supply chains would break down. There'd be a lot of panic. Many of our systems would be overloaded. And so, you know, we all hope that doesn't come along.
C'est ce qu'il dit. Il dit, s'il y avait une épidémie de
De grippe, lui, il parle de grippe.
Hypothétique, ouais. Oui, de grippe. Il dit, et que ça touchait beaucoup de monde, c'est toute la chaîne de distribution de la société qui s'écroulerait.
Exactement. Il a dit ça il y a 3 ans à 60 Minutes.
15h37.